RCF.
h 10, vous êtes sur RCF, l'heure du 18-19 en région. Nous retrouvons Alexis Claudretz.
Fabrice Gironet, mais aussi Jean-Pierre Benoît, Thierry Delis, Christopher Fausten, Jawed Saoudic, Gérald Gaillet et moi-même, nous sommes fiers de vous accompagner tous les soirs avec le magazine régional. Si vous avez raté la rentrée hier lundi, sachez que l'on est encore présent tout au long de cette année, du lundi au vendredi à 18h10, sur RCF Cœur de Champagne, sur RCF France-Ardenne et en DAB+, avec RCF Champagne-Ardenne. Au programme le mardi, Jean-François Boulanger nous fera toujours l'amitié d'être avec nous, toujours avec Mémoire Chrétienne, pour ouvrir cette saison 2023-2024, on parlera de Saint-Jacques de Compostelle, l'épisode 1, l'apôtre Jacques et la Reconquista. On en parle dans quelques instants. Vous le savez peut-être aussi, cette saison, on va aller plus proche de vous, chez vous, presque, j'allais dire, en toquant à votre porte ou à celle, en tout cas, de votre maire qui parlera de votre commune. C'est pourquoi ce soir, nous aurons une rencontre avec Catherine Malaisé, qui est maire de Prouilly, dans la Marne, deux maires pour le prix d'un, puisqu'en deuxième partie d'émission, nous serons aussi avec Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Là, ce sera plutôt pour évoquer la rentrée, j'allais dire, politique, sociale et scolaire du côté de Charleville. Nous aurons un direct depuis la foire de Châlons-en-Champagne. C'est l'événement qui marque la rentrée sur notre territoire. Christopher Fausten va partir à la rencontre des producteurs. Vous l'entendrez en deuxième partie d'émission, juste après le journal régional de 18h30. Et puis, les premiers coups de sécateur aussi ont été donnés avec les vendanges pour préparer un produit qu'on aime tous, ou presque en tout cas, le champagne. Maxime Toubar, président du syndicat général des vignerons, sera aussi avec nous dans cette émission. Voilà pour le sommaire à 18h12. On va essayer de ne pas prendre trop de retard pour se recaler parce que Fabrice Gironet, c'est le maître de l'horloge, le maître du temps, et il aime quand on est précis. C'est pourquoi on commence tout de suite avec un numéro de Mémoire Chrétienne avec Jean-François Boulanger qui fait sa rentrée. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous avez eu une journée de vacances en plus ?
On peut dire ça, mais vous savez, quand on est retraité, on est tout le temps en vacances.
Bon, vous êtes quand même un retraité bien actif. Et d'ailleurs, pour cette première de la saison, vous voulez nous parler de Saint-Jacques de Compostelle, partie 1, l'apôtre Jacques et la Reconquista, la mémoire en marchant. Tel est le titre de la série d'émissions qui commence aujourd'hui et dont le thème central est celui du pèlerinage. Pourquoi ce titre qui met en rapport le fait de se rendre dans un lieu saint avec la mémoire chrétienne, Jean-François Boulanger ?
Eh bien parce qu'un pèlerinage a toujours pour fondement un événement qu'il s'agit de commémorer. Mais lorsque ce pèlerinage s'ancre dans la longue durée, il arrive souvent qu'on oublie partiellement son sens originel et que la venue des pèlerins dans un endroit déterminé prenne une ou des nouvelles dimensions. Alors on a déjà eu l'occasion dans cette émission, notamment l'an dernier, d'évoquer des cas de pèlerinage, et c'était celui notamment de Notre-Dame de Santa Cruz, qui d'abord avait été localisé à Oran, où il commémorait la fin d'une épidémie de choléra survenue dans l'Algérie coloniale sous le Second Empire, et qui s'était ensuite déplacé à Nîmes, où les pieds noirs venaient se souvenir de leur vie en Algérie, et plus précisément dans l'Oranais, et se souvenir aussi des épreuves qu'ils avaient traversées au moment de la décolonisation.
Si je peux me permettre, Jean-François, l'exemple que vous prenez est sans doute extrême, puisqu'il s'agit d'un pèlerinage dont le lieu traverse carrément la Méditerranée.
Ah oui.
Cependant, la plupart des pèlerinages traversent le temps sans que le lieu où les pèlerins se rendent change.
Ah oui, absolument, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs par un pèlerinage qui existe depuis un bon millénaire et qui emprunte toujours les mêmes chemins pour se rendre au même lieu depuis donc de nombreux siècles, c'est par lui que nous allons commencer. Un pèlerinage qui semble ignorer d'ailleurs aujourd'hui encore les moyens de locomotion modernes nés avec la révolution industrielle, puisque sur le trajet de ce pèlerinage, on rencontre toujours aujourd'hui, y compris dans notre région, des marcheurs qui portent sur leur bâton ou accrochés à leur sac à dos une coquille, que l'on appelle en raison même de ce pèlerinage la coquille Saint-Jacques.
C'est donc du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle que nous allons parler, comme vous l'aviez promis en titre quelque part.
Absolument, hein, c'est une des caractéristiques particulières de ce pèlerinage qu'il a pour point de départ un événement qui relève de la tradition, mais que les historiens n'ont pas confirmé, et je puis vous dire qu'a priori ils ne le confirmeront jamais, au contraire. Parole d'historien. Parce qu'il a été créé après la découverte de ce que l'on a alors considéré comme les reliques de Jacques de Zébédée au début du IXe siècle.
C'est bien de l'apôtre Jacques dont vous parlez ?
Alors effectivement, Et d'après une tradition, justement, l'apôtre Jacques aurait quitté la Palestine au 1er siècle avec pour mission de prêcher donc la bonne nouvelle en Occident, et il aurait été jusque dans la péninsule ibérique. Et puis revenu en Palestine, il aurait été décapité sur les ordres du roi Hérode Agrippa. Sa dépouille aurait ensuite été placée dans une embarcation qu'un ange aurait guidée. Et donc cette dépouille et cette embarcation auraient traversé la Méditerranée pour remonter ensuite vers le nord, jusqu'aux côtes de la province espagnole de Galice, où elle se serait échouée. Et il aurait alors été enterré sur place à un endroit dont on n'avait pas conservé à l'époque le souvenir.
Vous venez, Jean-François Boulanger, de parler d'une tradition et non de la tradition.
Absolument.
Cela signifie-t-il qu'il y a d'autres versions de la vie et l'inhumation de l'apôtre Jacques ?
Alors effectivement, et dès le départ, on sait qu'il y a, eu des divergences. Dès la fin du 5e siècle, alors que les premiers écrits qui mentionnent la prédication de Jacques en Espagne remonte au début du siècle, dès la fin du 5e siècle, donc un ouvrage affirme, au contraire, que Jacques aurait évangélisé la Palestine et non l'Espagne. Alors cette thèse avait été récusée en 416 par le pape Innocent Ier. Quant au lieu de son inhumation, un certain nombre de textes le situent en Orient. Mais malgré tout, la thèse de l'apostolat de Jacques en Espagne semble, d'après les sources dont on dispose, acceptée par tous au début du 8e siècle. Et dans ce contexte, la tradition place la redécouverte miraculeuse, entre guillemets, en 813 par un ermite, Pélagius, d'un tombeau à proximité de la future ville de Compostelle. Et pendant son sommeil, cet ermite aurait eu la révélation de l'emplacement du tombeau et une pluie d'étoiles l'aurait guidé vers un tumulus que l'église locale va considérer comme le tombeau de l'apôtre Jacques. Et donc le roi des Asturies, Alphonse II, c'est le roi de la région, il voit un signe du ciel et il déclare alors Jacques, je cite en latin, « Patronus et Dominus totius Hispaniae », autrement dit « patron et maître de toute l'Espagne », et il fait édifier sur le lieu de la découverte une église qui est dédiée à Saint-Jacques. Mais ultérieurement, ces traditions ne sont pas confirmées effectivement par l'histoire, et notamment un historien qui s'appelle Monseigneur Duchesne, qui a été directeur de l'école française de Rome, affirme en 1900 dans les Annales du Midi, je le cite, « De tout ce que l'on raconte sur la prédication de Saint-Jacques en Espagne, la translation de ses restes et la découverte de son tombeau, un seul fait subsiste, celui de son culte galicien. Il remonte jusqu'au premier tiers du IXe siècle et s'adresse à un tombeau des temps romains que l'on crut alors être celui de Saint-Jacques. Et aujourd'hui, l'Église ne part plus de Compostelle comme du tombeau de Saint-Jacques. Jean-Paul II a utilisé l'expression « mémorial de Saint-Jacques » sans parler de relique. Jean-Paul II est venu deux fois à Saint-Jacques. Et Benoît XVI, venu en 2006, s'est contenté de dire que la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, je cite, « est liée à la mémoire de Saint-Jacques ».
Pour autant, c'est la conviction que Jacques est venu évangéliser l'Espagne, que sa tombe est à Compostelle, qui a dans un premier temps entraîné le développement du pèlerinage.
Absolument, et ça s'explique par le contexte historique. Nous avons évoqué alors le roi des Asturies. Ce roi donc règne de 791 à 842, c'est-à-dire nous sommes à l'époque de Charlemagne, qui est aussi celle de la chanson de Roland, c'est-à-dire que nous sommes à une époque où l'Espagne donc est sous domination musulmane. Alors, le royaume chrétien des Visigoths avait disparu, mais justement dans l'extrême nord, un nouveau royaume chrétien est apparu, c'est le royaume des Asturies qui est protégé des arabo-musulmans par la cordillère cantabrique. Et c'est le royaume des Asturies qui va être le point de départ de ce qu'on appelait la Reconquista, donc la reconquête de l'Espagne par les chrétiens. Et dans ce contexte précis, le fait de proclamer Saint-Jacques patron de l'Espagne prend une signification particulière. Et la figure de Saint-Jacques va justement être associée à la Reconquista.
Alors Jean-François Boulanger, de quelle façon Saint-Jacques est-il associé à la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens ?
Alors là encore, ça relève, disons, de la tradition, et c'est à chacun de juger, de la réalité des faits. Mais on raconte que pendant une bataille qui avait opposé le roi des Asturies, Ramiro Ier, à l'émir de Cordoue, Abderrahman II, alors que la bataille faisait rage, un cavalier serait apparu sur un cheval blanc, portant un étendard frappé d'une croix rouge, et les combattants ont reconnu en lui, dit-on, l'apôtre Jean, et cette apparition leur aurait donné la victoire. Et ainsi est née une tradition qui associe Saint-Jacques à de très nombreuses victoire chrétienne qui fait de Santiago y Sierra España, Saint-Jacques et que l'Espagne attaque, le cri de guerre des guerriers espagnols, et un ordre militaire a été dédié à Saint-Jacques vers 1560, l'ordre de Santiago. Et donc après la prise de Jérusalem par les Turcs au IXe siècle, il n'y a plus que deux grands pèlerinages dans la chrétienté, c'est Rome et Saint-Jacques. Le pèlerinage va atteindre son apogée au XIIIe siècle avec plusieurs centaines de milliers de pèlerins tous les ans. Son rayonnement d'ailleurs atteint la France et va même au-delà. Et c'est à ce moment-là que sont tracés ce qu'on appelle les chemins de Saint-Jacques, dont le plus connu était le chemin français, Camino Frances. Et localement, des confréries d'ailleurs entretiennent la dévotion à Saint-Jacques. Et par exemple, à l'intérieur de l'église Notre-Dame-en-Vaux de Châlons, se trouve une verrière de la vie de Saint-Jacques qui a été réalisée vers 1525-1530 et qui est un don de la confrérie de Saint-Jacques locale.
Pour aujourd'hui, Jean-François Boulanger, je dis bien pour aujourd'hui, une conclusion que l'on va dire provisoire.
Absolument, parce que vous comprenez qu'on est loin d'avoir terminé l'affaire.
Hein. Il va y avoir d'autres aspects
absolument,
à développer qui vont
et
permettre d'amener de nouvelles conclusions.
Absolument, et nous n'avons évoqué qu'une période de l'histoire du pèlerinage. Son point de départ est donc une tradition qui localise en Espagne la tombe de l'apôtre Jacques. Mais dans le contexte de la Reconquista, on lui donne une signification particulière qui a des rapports d'ailleurs très lointains avec la vie de Saint-Jacques. Mais l'élargissement de son rayonnement à la chrétienté entière lui donne une autre dimension. Par contre, on va le voir, le pèlerinage va entrer dans un déclin relatif, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
Merci Jean-François Boulanger d'avoir été avec nous, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Le 18-19 sur RCF.
18h22 dans le magazine régional RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. Plus proche de vous chaque jour, on file à la découverte d'une commune dans la Marne ou des Ardennes. Aujourd'hui, on prend la direction de Prouilly, c'est dans la Marne, donc avec sa mère, Catherine Malaisé, au micro de Jean-Pierre Benoît.
Catherine Malaisé, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Pierre Benoît.
Merci et merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on est très heureux de vous accueillir pour nous parler de vous et aussi de votre commune, Prouilly, à quelques kilomètres de Reims. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement cette commune, sa situation géographique, etc.
Bah écoutez, Prouilly est un village rural, à majorité agricole et viticole, situé dans le massif de Saint-Thierry, tout près de entre Muison et Joncherie-sur-Vel. Nous avons 543 habitants. Il est composé d'un bourg-centre, d'un hameau, avec deux lotissements assez résidentiels, le Ré du Bois et le Bois Goulot, et un parc résidentiel de loisirs, la Chute des Eaux.
Alors, vous-même, Catherine Malaisé, vous êtes maire de Prouilly. Quelles ont été vos motivations pour être maire? Je veux dire, c'était peut-être dans votre ADN, c'est venu naturellement, vous avez souhaité, enfin, comment ça s'est passé?
Alors là, pas du tout. Bon, je suis élue depuis 1995. J'ai fait d'abord deux mandats en tant qu'adjointe. Puis en 2008, j'ai été élue maire, je dis toujours, par accident. Parce que, à l'époque, en 2008, donc deux tiers des conseillers municipaux étaient des nouveaux. Il n'y avait aucun candidat. Et donc, les élus m'ont choisi, puis j'ai accepté la mission sans trop savoir ce qu'ils m'attendaient vraiment.
Comment peut-on caractériser votre commune aujourd'hui? Ce sont des viticulteurs, ce sont des retraités, il y a des jeunes. Comment ça se passe?
Alors, c'est une commune quand même à caractère rural. Hein. Il y a beaucoup de viticulteurs, des petites entreprises, quelques agriculteurs. Bon, il y a aussi, je dirais peut-être, je ne sais pas combien exactement, mais des gens qui travaillent sur Reims. Hein. Beaucoup de maisons, des anciennes maisons ont été vendues, rénovées.
Retapées, etc.
Bon, nous avons quand même un commerce dans notre village, il faut le souligner, parce que dans beaucoup de villages, il n'y a plus de commerce, donc nous avons notre boulangerie. La commune a repris le fonds de commerce de la boulangerie en 2013, et on a remis un gérant, on a refait une nouvelle boulangerie sur la place du village. On a également une micro-crèche que nous avons installée, qui a été installée dans les anciens locaux de l'école. Donc c'est un village qui vit, voilà.
Qui vit, qui est agréable, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires, les communes ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre de vie aussi des habitants. Et puis surtout, vous avez dit la boulangerie, ça c'est important. Vous-même, vous êtes très souvent sollicité, il y a des maires d'ailleurs qui veulent pas rempiler parce qu'ils disent c'est trop de responsabilités. Ce sont des responsabilités d'être maire.
Oui, naturellement. Le maire doit gérer une commune avec un budget comme une entreprise. Hein. On est le premier interlocuteur des habitants face à l'État. On entend tout, c'est normal. On a de nombreux pouvoirs de police. C'est, à mon avis, le plus difficile à gérer et ce qui entraîne le plus de conflits. Parce que gérer l'entreprise, gérer les biens publics, c'est très intéressant. Mais bon, c'est vrai, les relations avec la population deviennent de plus en plus compliquées avec certaines, car les personnes ne respectent plus les règles, certaines, et n'acceptent plus qu'on leur dise non.
Et puis il y a beaucoup de gens partout, dans toutes les sociétés, comme on dit, qu'on peut avoir la tête près du bonnet et puis qui s'emportent, etc. Et le maire, comme disait Gérard Larcher, président du Sénat, un peu familièrement, il est aussi à portée d'engueulade, comme on dit. Il faut bien trouver quelqu'un pour vous péter un petit peu, mais enfin, aussi des gens qui approuvent ce que vous faites, forcément, hein.
Oui, naturellement. Bon, c'est sûr que quand ça arrive, les conflits, il faut les digérer, si on peut dire.
Oui.
Bon, c'est pas si souvent, mais c'est vrai que ça prend du temps à digérer.
Aujourd'hui, je vous interromps, Catherine Malaisé, mais il y a le Grand Reims, des communautés de communes. Alors, il y a des personnes, des maires qui sont contents, il y en a des maires qui le sont moins, parce qu'ils disent, est-ce qu'on est encore le patron chez nous ? Le maire, c'est un personnage pour les gens de la commune.
Et je pense qu'on est encore patron. Le Grand Reims, certes, beaucoup de compétences ont été transférées au Grand Reims, mais rien ne se fait sans l'avis du maire et du conseil municipal. On est un relais. Moi, je dis que, bon, c'est vrai que notre mission a un peu été modifiée suite à la création de la communauté urbaine. Bon, avant, on avait un trou dans une rue, on allait acheter ce qu'il fallait, on le faisait. Donc maintenant, il faut remplir une fiche navette. Mais bon, si on suit vraiment les choses, et ça se fait. Hein, en plus, bon, avec le Grand Reims, on a quand même des financements plus importants. On peut se permettre de faire des travaux qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Mais si on suit les choses et si on s'investit auprès des agents du Grand Reims, ça se passe bien.
Alors, est-ce que vous avez... Bon, il y a des demandes, des requêtes, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure si on a le temps. Mais le plus important, c'est est-ce que vous avez des projets en cours ou à plus long terme pour Prouilly ? Avec votre conseil municipal, est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Bah, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Bon, les budgets ne sont pas extensifs, c'est là le problème. On a quand même pas mal de bâtiments communaux, des édifices publics qu'il faut tenir en état. Là, en ce moment, on est en train de rénover le mur de soudainement de l'église et ses abords, parce que le mur de soudainement se fendait et l'église avance. Pour cela, on a signé une convention avec la Fondation du patrimoine afin de lancer une souscription, car ces travaux ne sont pas subventionnés par la DRAC. L'église est classée, mais pas les abords. Nous venons de refaire la salle des fêtes avec le terrain à côté. Comme projet, on a l'installation d'une vidéosurveillance dans le village et aussi la création d'un terrain de loisirs pour les habitants. Nous venons de récupérer le terrain, donc nous espérons pouvoir faire ces deux projets avant la fin du mandat. Ben, il y a aussi la façade de la mairie qui est en très mauvais état et qui a un besoin d'être rénovée. Bon.
Catherine Malaisé, on voit bien que vous avez du pain sur la planche et que vous ne manquez pas d'idées. Alors la question souvent qui est posée, c'est que il y a souvent le maire, alors c'est peut-être pas votre cas, d'une vie professionnelle, d'une vie forcément familiale, c'est pas toujours facile de conjuguer les deux.
Ah non, c'est très très compliqué à gérer. Bon, moi j'étais enseignante, donc j'ai pu demander à travailler à mi-temps quand j'étais élue en 2008. Bon, depuis 2020, j'ai arrêté de travailler parce que au dernier mandat, bon, avec ma vie de famille, c'était très compliqué, donc il a fallu faire un choix. Donc j'ai préféré arrêter mon travail, j'étais près de la retraite, pour m'investir pleinement à la commune. Mais bon, sans le soutien de ma famille, de mon mari surtout, il serait pas possible de tout faire. Hein.
Alors, vous conciliez les deux. On imagine que vous avez des journées bien bien chargées. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une mère heureuse ?
Je pourrais pas dire ni heureuse ni malheureuse. Ça dépend des jours.
Ça dépend de ce qui arrive. Mais vous êtes quand même, il faut le dire, une mère parce qu'il faut être passionné. Vous aimez ça, vous aimez aussi. Et quand on regarde les sondages des Français, quand on demande quel est l'élu avec lequel ils sont plus en phase, c'est le maire qui vient en numéro un. Le maire. C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut aborder de proche.
Oui, c'est vrai. Bon, moi, en étant plus jeune, je me suis toujours investie dans des associations. Donc, j'aime rendre service aux gens. C'est ce que j'apprécie le plus en tant que maire. Travailler en équipe, monter des projets, c'est passionnant. Bon, comme c'est mon troisième mandat, j'ai pris aussi d'autres responsabilités à l'association des maires, dans certaines instances départementales. Donc on rencontre des gens, c'est très enrichissant.
Merci en tout cas, car on arrive au terme de notre émission qui est trop courte, mais vous reviendrez sur RCF. Merci Catherine Malaisé, maire de Prouilly, d'avoir été avec nous. À bientôt.
Eh ben, merci beaucoup à vous, à bientôt.
Et quant à nous, on commence à bien régler nos horloges, puisqu'hier on avait pris une minute de retard. Aujourd'hui, 18h30, pétante, passé de 15 secondes, l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 5 septembre, les campus universitaires font leur rentrée à Sciences Po Reims. La rentrée solennelle était organisée mercredi dernier en présence du directeur de Sciences Po, Mathias Vichra. Du 9 septembre au 1er octobre, le festival itinéraire fait son retour et propose une multitude de spectacles et d'animations culturelles gratuites dans tout le département de la Marne.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Il n'y a pas que nos enfants et adolescents qui reprennent le chemin des classes. Les étudiants aussi, certains établissements d'enseignement supérieur, ont même anticipé leur rentrée comme Sciences Po Campus de Reims qui a organisé sa rentrée solennelle mercredi dernier en présence du directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, qui donne le cap pour cette année 2023-2024.
C'est un cap qui consiste à la fois à préserver et à renforcer l'excellence, notamment l'excellence dans nos recrutements, l'excellence dans nos enseignements, de le faire de manière solidaire, avec de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on peut promouvoir l'excellence tout en s'ouvrant géographiquement, socialement, et on a de plus en plus d'élèves qui viennent de la France entière, du monde entier. À Reims, 50% des élèves sont internationaux. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre l'excellence et l'ouverture. Et enfin, il y a un élément très important qui est spécifique à Sciences Po, c'est son rôle dans la cité. Le rôle de Sciences Po ne s'arrête pas aux frontières ou aux murs du campus de Reims. On souhaite que Sciences Po soit présent dans la cité. Et donc c'est pour ça que Sciences Po, avec la ville de Reims, organise des conférences, des débats, participe au niveau du parcours civique à des actions de solidarité. Et ça me paraît très important de se dire qu'on n'est pas une université comme une autre. On a aussi un rôle très important dans la cité. C'est à la fois l'excellence, l'ouverture et le rôle dans la cité.
Autre notion importante de la formation reçue par les étudiants de Sciences Po, celle de l'engagement. 90 associations existent sur le campus. Cette année, 573 étudiants ont fait leur rentrée en première année, des éléments qui renforcent l'importance de Sciences Po Campus de Reims.
Oui, c'est le campus le plus important que le campus de Paris en nombre d'étudiants. Et c'est un campus important aussi parce qu'il a deux majeurs géographiques, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et c'est un campus important parce qu'il est très en pointe, notamment sur toute une série de sujets et notamment sur le rapport aux collectivités locales, à la vie locale, au débat public local. Et je souhaite que ça puisse se renforcer. Et je compte évidemment sur la directrice qui est complètement en phase pour faire en sorte qu'on renforce cet aspect-là aussi.
Effectivement, c'était Mathias Vichra au micro de RCF Reims-Ardennes. À noter que d'ici quelques semaines, la création d'un institut de l'Afrique pour tout Sciences Po devrait être annoncée, ce qui devrait encore renforcer l'attractivité du campus rémois qui enseigne le programme Afrique. Les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain se préparent sur le terrain. C'est dans ce cadre que le président du Sénat, Gérard Larcher, viendra soutenir demain midi à Cézanne la liste pour toute la Marne dans une France forte et unie, portée par le président du conseil départemental de la Marne, Christian Bruyen. La 24e édition du festival itinéraire fait son retour du 9 septembre au 1er octobre. Initié par la Fondation culturelle de Brault-Souvelmy et porté par le département de la Marne et l'Institut de France, cette nouvelle édition vous propose une programmation mêlant cirque, théâtre, jeune public, musique classique et musique actuelle, un projet culturel atypique valorisant le patrimoine rural marnais, comme nous le présente la vice-présidente chargée de la culture au conseil départemental de la Marne, Frédéric Schultes.
Ça fait 24 ans que ça existe. Pour le département, c'est un moment important parce que c'est un festival vraiment en milieu rural, dans des lieux atypiques, dans des lieux différents, qui s'adresse à tout public. Parfois, c'est un peu plus jeune public que d'autres fois. Mais on a un petit peu tous les modes d'expression. Théâtre, cirque, c'est toujours un petit peu surprenant. Une culture qui s'adresse à tous.
De la Brie champenoise à l'Argonne, de la montagne de Reims au Pays Vitria, 15 spectacles seront présentés dans 9 communes rurales. Parmi ces rendez-vous, les musiques de films cartoon le 24 septembre à Sainte-Menou. Cécile Camilleri, chef de service affaires culturelles au département de la Marne.
On est très heureux de présenter donc ce spectacle vraiment familial qui est proposé donc à Sainte-Menou, le spectacle Cartoons avec le musicien Fred Palem et le Sacre du Tympan, donc 12 musiciens qui vont interpréter les grands classiques de l'animation, à savoir Batman, Tom and Jerry, Pocahontas, réinterprétés, réarrangés pour l'occasion, avec la projection des personnages lors du concert.
Des propos recueillis par Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne. Le week-end d'ouverture des itinéraires aura lieu les 9 et 10 septembre à la station nautique de Giffaumont-Champaubert au lac du Der. Informations et réservations sur le www.festival-itinéraire.fr. La foire de Chalon en Champagne qui continue de battre son plein. Christopher Fausten sera en direct avec nous dans quelques instants depuis les allées de la foire. Demain, c'est toute l'équipe du 18-19 que vous retrouverez depuis le stand de l'église catholique en Champagne-Ardenne de 18h 10 à 19h pour le magazine régional avec Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon, qui sera notre invité fil rouge, mais également le président général du Souvenir français, Serge Barcellini, qui sera avec nous en plateau, le président du département de la Marne, Christian Bruyen, a aussi confirmé sa présence. L'actualité musicale du jour, c'est la présence du chanteur Louis Bertignac, qui se produira sur scène dans quelques minutes à 19h à l'occasion de Foire en scène. Évidemment, la Foire de Chalon en Champagne, c'est aussi l'occasion de retrouver vos joueurs de préférés, vos sportifs préférés. Et par exemple, les joueurs du Stade de Reims, section féminine et masculine, seront présents au Capitole ce mercredi de 15h à 17h. Ils signeront entre autres des autographes sur le stand du Crédit Agricole entre 15h50 et 16h20, l'heure à laquelle ils effectueront un passage sur l'installation du district de la Marne. Voilà pour quelques informations. Le Champagne Basket aussi sera présent demain pour des séances dédicaces. On est en train de chercher les horaires en direct. Voilà, ce sera à partir de 15h, toujours sur le stade du département de la Marne également. Et puis, à partir de 17h15 aussi, il y aura de nouvelles séances dédicaces avec une présentation officielle sur le stand de la ville de Chalon et de Chalon Anglo entre 15h et 16h30. Voilà pour rencontrer vos sportifs préférés. Ça se passe demain, c'est à la foire de Chalon en Champagne, c'est l'événement. Et nous, dans quelques instants, on y va, on n'y résiste pas.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Évidemment qu'on n'y résiste pas à 18h38 d'aller à la foire de Chalon en Champagne. Il fait beau, il fait chaud. Christopher Fausten est avec nous sur place. Bonsoir Christopher.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous et à tous. Et oui, il fait beau, il fait chaud comme vous dites. Les visiteurs, les exposants sont au rendez-vous pour cette 77e édition qui se tient jusqu'au 11 septembre prochain.
Une petite question avant d'entrer dans le vif du sujet de votre chronique parce que vous allez nous emmener faire plusieurs rencontres. Mais tout se passe bien pour vous Christopher, vous nous parlez du beau temps. On imagine que ça doit être agréable pour vous de vous balader dans les allées.
C'est très agréable. Alors, peut-être un petit peu trop chaud pour les exposants. On leur posera la question dans un court instant. Mais en tout cas, oui, le soleil est radieux pour passer une très bonne journée, une très bonne semaine foire. Et comme vous le disiez il y a quelques instants dans le journal, à 19h, foire en scène avec Louis Bertignac au programme.
Voilà, pour les auditeurs qui sont sur la route ou qui sont à proximité de Chalon en Champagne, il est encore temps de s'y rendre. Avec vous, Christopher, pendant quelques minutes, nous allons partir à la rencontre des producteurs de notre territoire. Et nous commençons du côté de Livry-l'Ouverture. Merci.
Tout à fait, entre Chalon, Champagne et Reims, Livry et Ouvercy, le rucher de Caroline et Ludovic. Alors, j'ai justement Caroline et Ludovic qui sont avec moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Merci de prendre ces quelques minutes. Alors, on est sur votre lieu de présentation hein, de ce que vous proposez au stand de la communauté d'agglomération de Chalon-Champagne. Alors, Ludovic, que proposez-vous aux visiteurs aujourd'hui ?
Alors, on est apiculteur depuis 5 ans et donc on vient proposer ici sur le centre de Chalon la production de nos abeilles. Alors, des miels, hein, bien sûr, et puis toute une série de produits dérivés qu'on fabrique localement.
Alors, il n'y a pas que du miel. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, on va découvrir ça ensemble.
Voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc, quand je parle de produits dérivés, on va parler de pain d'épices, de nougat, de bière au miel, d'hydromel, mais aussi de caramel au miel et de confiture de fraises au miel.
Vous proposez beaucoup de choses. Vous n'êtes que deux ? Vous êtes une équipe ?
Non, on est que deux. Caroline et moi.
Alors, on fait ça depuis combien de temps ?
Alors, ça fait 5 ans qu'on a démarré l'activité. Moi, je suis agriculteur, Caroline a son métier également. Et puis, on fait évoluer tranquillement le nombre de colonies pour pouvoir produire suffisamment et pouvoir s'ouvrir à beaucoup de monde.
Comment est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure ? C'est passé de père en fils, si je peux dire, cette famille, ou l'idée est venue autrement ?
Alors elle est venue autrement, un petit peu de mon petit frère qui avait cette passion-là, et puis on l'a suivi.
D'accord.
Lui, il a arrêté, enfin il nous suit un peu comme ça aussi. Et en fait, moi je suis agriculteur, donc tout ce qui est rapport à la nature, on aime ça. Et donc voilà, on s'est fait piquer par la passion, et puis une fois qu'on est parti, on en fait 4, on en fait 8, on en fait 10, et puis on est aujourd'hui à 120 ruches.
120 ruches, en effet, en tout cas bravo pour ce que vous faites hein, du côté de Livry-Louversy. Alors, vous êtes là encore pendant quelques minutes, hein, puisque la journée se termine tranquillement en attendant le concert. Vous êtes là les autres jours de la foire ?
Alors non, c'était donc on était là samedi puis aujourd'hui.
Oui.
Et puis non, donc c'est notre dernière journée aujourd'hui, c'est la fin de la journée.
Mais on peut vous retrouver.
On peut nous retrouver sur les différents marchés, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis on a une petite boutique à la ferme où on est ouvert les mercredis et vendredis de 17h à 19h le samedi matin.
Alors retrouvez sur les réseaux sociaux, la page Facebook.
La page Facebook, on a Instagram également.
Alors bienvenue chez nous, 100% local.
Voilà, c'est ça.
J'ai bien révisé. En tout cas, merci à vous deux, Caroline. Et puis Ludovic, du côté de Livry-Louversy, apiculteur, donc du côté de Livry-Louversy dans la Marne, entre Châlons-en-Champagne et Reims. On vous souhaite une très bonne fin de foire. Et puis on se retrouve très bientôt sur RCF avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
On voit que Christopher a bien appris sa leçon pour cette rentrée scolaire. Il est déjà au taquet. D'ailleurs, Christopher, avant de passer dans le vif du sujet avec d'autres producteurs que vous allez rencontrer, on va voir si vous avez bien révisé votre leçon de géographie également, parce que je crois que vous voulez nous emmener dans le sud-ouest marnais. Alors, on va se baser du côté de Cézanne. Savez-vous combien il y a de kilomètres entre Livry-Louversy et Cézanne ?
Ouh, alors, je ne sais pas exactement. On va dire qu'on est aux alentours de 60 kilomètres à peu près.
Ah, c'est pas trop mal. 70 km pour le trajet le plus court, 90 km pour le trajet le moins long en termes de durée. Si vous étiez plutôt pas mal, Christopher, je vous laisse nous emmener dans le sud-ouest marnais avec de nouveaux producteurs.
Ah oui, dans le sud-ouest marnais et précisément, Alexis, au Goussouani. Et oui, on est dans le territoire de la Brie champenoise, dans le sud-ouest marnais. Et là, on change complètement de thème, quoique on va découvrir encore de la bière artisanale, la gautoise, avec bien justement le brasseur local de notre territoire. Romain Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre ces quelques minutes. Alors, je vois que vous êtes en pleine action. Hein. Vous êtes des clients aujourd'hui, hein ?
Un petit peu, oui. Sur la fin de journée, on voit pas mal de monde.
Ah oui, à l'approche du concert.
C'est ça, ils ont soif.
Ils ont soif, il fait beau, il fait chaud. Alors, justement, parlez-nous de vous, parlez-nous de la Gaultoise.
Donc, en fait, la Gaultoise a été créée en 2018. Je suis agriculteur. Et on a retapé une ancienne étable à la ferme. Et ma petite particularité, c'est que j'incorpore une partie de mes céréales dans mes bières.
Céréales dans les bières. Alors, vous proposez différentes bières, hein, bière blanche, bière blanche.
C'est ça, j'ai une gamme de 7 bières. Donc, 7 bières. La gamme classique blanche, blonde, ambrée, brune, à laquelle s'ajoute une bière à la framboise, une triple au miel et une pale ale, une blonde un peu plus amère.
Donc vous le présentez, hein, en plus vous êtes labellisé Made in Marne, il faut le citer, hein, avec le département de la Marne. Labellisé depuis longtemps ?
Depuis le début, depuis la création, il y a 2 ans maintenant.
Fidèle donc de cette opération, belle opération du département de la Marne, Made in Marne. Des bières que vous proposez tout au long de la journée, donc vous le présentez, mais aussi vous le vendez hein, à la foire.
C'est ça, elles sont là à la dégustation, on peut boire sur place ou on peut prendre à emporter, tout à fait.
Alors, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes encore là dans les prochains jours, comment ça se passe ?
Non, je serai là uniquement aujourd'hui, on est sur le stand du Cézannet, donc c'est la ville de Cézanne qui nous invite pour la journée.
D'accord, oui, c'est vrai que chaque jour, il y a un thème différent, il y a un lieu où on découvre chaque territoire Champagne-Ardenne. Romain Pelletier, pour nos auditeurs qui arrivent dans quelques minutes pour le concert, on leur invite tout de suite à se rendre ici sur le stand du sud-ouest marnais. Alors ça se trouve juste en face du stand de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. Pour les autres, on peut vous retrouver où ?
On peut me retrouver à la ferme, donc je suis ouvert tous les samedis à Le Goussouani. Et aussi la semaine sur rendez-vous, et j'ai tout un réseau de revendeurs dans le département, une quarantaine environ.
Très bien, ben merci beaucoup Romain Pelletier d'avoir pris ces quelques minutes. Bonne fin de journée, bonne continuation, puis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Voilà Alexis, depuis la foire de Châlons-Champagne, à la découverte de nos producteurs du territoire, et la journée se termine tranquillement, mais elle est loin d'être terminée en soi, puisque ça va encore durer pendant plusieurs jours, jusqu'au 11 septembre prochain.
Ah bien justement, Christopher, pour bien finir cette journée, ce que je vous propose, c'est soit vous filez courir, nous réserver une place au premier rang du concert de Louis Bertignac ce soir, soit vous nous mettez une petite bière de côté et vous nous réservez une place en terrasse plutôt à l'ombre.
Alors, je vais choisir la bière à consommer avec modération, bien sûr, mais la bière, puisque c'est assez proche, ça m'évitera de courir.
Avec le Made in Marne. Allez, bon repos, Christopher. On vous retrouve dans les prochains jours, toujours merci, depuis merci. La foire de Châlons en Champagne. D'ailleurs, on le rappelle, on donne rendez-vous à nos auditeurs demain, 18h10, 19h, pour un 18-19 en direct de la foire de Châlons au stand de l'église catholique en Champagne-Ardenne. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, hall 2, allégé dans les allées de la foire, pour pourquoi pas participer au direct. Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons, sera invité fil rouge de cette émission. Il y aura d'autres très belles rencontres, on en parlait tout à l'heure. Serge Barcellini, président du Souvenir français, sera avec nous en plateau. Christian Brouillin, président du département de la Marne, sera là également. On devrait avoir des rencontres avec des Ardennais également qui seront là. On pense au président de l'Office de tourisme destination Sud-Ardenne, Thomas Amine, qui vient de confirmer à l'instant par SMS direct sa présence demain sur notre plateau. Son cousin Louis-Joseph Samine, agriculteur dans le département des Ardennes, lui aussi devrait être là. C'est dire les beaux rendez-vous qui nous attendent à l'occasion de ce plateau demain, 18h10, 19h. Mais pour l'instant, on est mardi, il est 18h, bientôt 46. L'émission continue le 18-19 régional en Champagne-Ardenne.
Le 18-19 sur RCF.
Tout à l'heure, on était du côté de Prouilly avec Madame la maire, Catherine Malaisé. Deux maires pour le prix d'un ce soir, c'est ce que l'on vous a promis pendant le sommaire. Boris Ravignon, l'édile de Charleville-Mézières, est avec Jean-Pierre Benoît.
Monsieur le maire, bonjour. On vous a rencontré il y a quelques jours, c'était lors de la brocante de Mont, et on a tout de suite compris que vous aimiez le contact direct avec les habitants. Comme disait Gérard Larcher, un maire à portée d'engueulade, c'est le plus beau. J'allais dire, c'est le plus beau mandat d'un élu.
C'est, je crois, un des plus beaux mandats de la République parce que c'est effectivement un mandat du quotidien. On s'occupe de choses qui touchent nos concitoyens au plus proche. Le cadre de vie, la propreté de nos rues, nos espaces verts, la façon dont on est protégé par la police au niveau local, l'éducation de nos enfants, les écoles. Tout ça, ce sont des missions qui sont des missions très proches, qui, je crois, sont très chères à tous les Français. Et effectivement, un maire, il est forcément au milieu de sa ville. Je pense que quand on s'engage dans cette démarche-là, c'est pour à la fois accompagner, aider, soutenir, faire développer le territoire dont on a la charge, mais en acceptant aussi, bien sûr, d'être toujours à portée de baffe, à portée d'engueulade, comme on dit, parce que ça fait partie du jeu.
À portée d'encouragement aussi.
Oui, bien sûr, et effectivement, il y a un certain nombre de concitoyens qui nous encouragent, qui passent des messages. Il y a beaucoup d'amour entre, je crois, les maires et leur population. C'est très bien ainsi. Et donc, cette affection qu'il y a, elle est exigeante parce qu'on a un travail, une mission à accomplir. Et puis, il y a le plaisir de se retrouver à Charleville-Mézières. On a l'habitude d'avoir de grands rendez-vous qui nous permettent de nous retrouver, le cabaret vert, le festival des marionnettes, la fête de la bière, les confréries. Tout ça, ce sont des moments où je crois, tous les carolomacériens et les ardennais se retrouvent. Et on a vraiment beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à y participer.
On donne rendez-vous, vous donnez rendez-vous à nos auditeurs le vendredi à 7h finalement, en mairie.
Tout à fait, depuis que je suis élu, il y a maintenant presque une dizaine d'années, donc un jour de la semaine, là maintenant c'est désormais le vendredi, de 7h à 13h, eh bien je reçois tous ceux qui veulent venir me voir. On ne trie pas dans les sujets, personne n'est empêché de venir évoquer un sujet qu'il aurait envie d'évoquer avec son maire, avec moi, et donc chaque vendredi, ça me fait recevoir presque une petite quarantaine de mes concitoyens, et c'est extrêmement instructif. Ça permet d'agir, d'abord de régler un certain nombre de dysfonctionnements, il y en a toujours, et puis ça permet surtout de prendre le pouls de notre ville, une ville qui bouge, qui se développe, mais où il y a toujours des sujets, des aspirations, des projets à porter.
Vous l'avez évoqué, Boris Ravignon, grand succès du Cabaret Vert, et on attend les marionnettes.
Oui, on est dans ces années impaires où on a la chance d'avoir à la fois au mois d'août le festival du Cabaret Vert, très grand succès, 127 000 visiteurs, et vraiment pendant toute la semaine qui était celle du Cabaret Vert, la ville était emplie de jeunes, de visiteurs, de gens qui découvraient notre ville et qui, dans leur immense majorité, ont été totalement charmé, enthousiasmé par Charleville-Mézières et par les Ardennes. Et puis, on va avoir un double bonheur qui est celui des deuxième quinzaine du mois de septembre du Festival des Marionnettes, qui est vraiment le grand festival de notre ville depuis les années 60, hein, qui se déroule ici. Et le monde entier de la marionnette se donne rendez-vous à Charleville-Mézières. On va entendre parler 15-20 langues dans les rues de notre ville, assister à des milliers de possibilités de représentation. Donc c'est de nouveau un beau moment. on croise simplement les doigts pour que le beau temps qui nous a accompagnés au Cabaret Vert, qui nous a accompagné sur la brocante de Mont, nous accompagne encore pour le fin septembre.
Maurice Révignon, pour terminer, vous êtes aussi président d'Art de Métropole. Ça, c'est important parce que on sent qu'il y a une bonne entente avec également Didier Herbillon, avec beaucoup de personnes. Alors, il y a des sujets qui vont sans doute bouger, donc à propos de Sedan, à propos de beaucoup d'endroits. Il y a une vraie communion dans cette Ardennes métropole parce que ça pèse lourd maintenant.
Oui, vous savez, nos voisins belges ont une devise qui est « l'union fait la force ». Entre Flamands et Wallons, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils s'unissent pour agir ensemble pour le bien de leur pays. Et je crois que nous, c'est la même chose. Dans les Ardennes, il faut que Charleville-Mézières et Sedan soient unis pour agir ensemble pour le bien des Ardennes. Et c'est ce que nous faisons, effectivement, avec mon ami et voisin Didier Herbillon. On a aujourd'hui une relation très, très solide. Sedan, Charleville-Mézières, c'est le même territoire. C'est notre bassin de vie. C'est là où nous vivons. Et donc, quand on travaille à implanter une entreprise à Charleville-Mézières ou à Sedan, eh bien on travaille à implanter une entreprise dans les Ardennes de toute façon et qui va faire du bien à notre territoire. Donc on ne doit plus être, comme ça a longtemps été le cas, dans une concurrence ou dans des guéguerres entre nos deux villes. Je crois que Didier et moi avons réussi à dépasser ce stade-là. On travaille bien ensemble et Ardennes Métropole est le produit aussi de ce rapprochement, ce qui nous a permis de construire un campus universitaire, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être plus attractifs si on accueille Hermès, si on développe des activités avec Intelsia, avec la NTS. C'est aussi grâce à cette coopération. Et puis j'espère que notre coopération dans les jours qui viennent aboutira à ce qu'on donne un nouvel espoir au club de Sedan parce que c'est une partie de notre identité ardennaise et qu'on est tous comme Ardennais blessés de voir Sedan sanctionné deux fois pour la même situation et je crois qu'il y a de la colère et on a vraiment un espoir que ce club renaisse le plus vite possible.
Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un maire heureux? On pose la question à chaque fois.
Je suis un maire heureux, très heureux, très heureux d'accomplir ma mission. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque récemment, le président de la République m'a par exemple proposé de prendre la présidence de l'ADEME. J'ai tenu à rester maire de Charleville-Mézières parce que c'est pour moi le plus beau des mandats, que j'ai été très fier, très honoré qu'à deux reprises les Carolo-Masseriens me fassent confiance. Et effectivement, je suis un maire heureux de continuer à accomplir sa mission, heureux tout simplement d'être utile.
Merci Boris Révignon d'avoir été avec nous et puis à bientôt sur RCF. Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et l'actualité forte de la journée, évidemment, dans le département de la Marne, c'est les premières parcelles de vendanges qui ont été récoltées ce mardi. Mais le gros de l'activité sera concentré du 7 au 14 septembre dans la majorité des communes de l'appellation Champagne. Pour nous en parler, Maxime Toubard, président du syndicat général des vignerons de la Champagne, est au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Il est partout, on ne l'arrête plus aujourd'hui.
Bonjour Maxime Toubard.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat général des vignerons. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF depuis la foire de Chalon en ce mardi 5 septembre. Alors c'est la rentrée scolaire, c'est le lancement de cette 70e foire de Chalon, mais c'est aussi le début des vendanges. Ça y est, nous sommes rentrés dans cette période des vendanges. Un rendez-vous très important bien sûr pour le territoire de la Champagne.
Oui, on est parti, ça y est. En effet, c'est le rendez-vous. C'est le fruit d'une année de travail, donc c'est pour les vignerons de Champagne, bien sûr, c'est un moment très important, les vendanges.
Alors ça a commencé depuis quelques jours, en fonction des territoires, de la Marne, de l'Aube.
Oui, donc en fait, en fonction des territoires, en fonction des sols, des sous-sols, du climat, on a des régions qui commencent avant d'autres, donc l'Aube toujours un petit peu avant, et puis après la vallée de la Marne, puis ensuite la Côte des Blancs. Donc tout le monde a calé ses dates, et puis on a commencé, c'est parti.
Alors par rapport à d'habitude, on est dans une période, on peut dire, normale.
On n'ose plus trop de parler de choses normales au niveau des dates, mais on est revenu peut-être, oui, en effet, à quelque chose de plus normal par rapport aux 10 dernières années. Donc première quinzaine de septembre, c'est maintenant normal. Donc oui, on est dans une bonne... la décade est premier au 10 septembre, c'est toujours à peu près la moyenne des années passées.
Maxime Toubard, quelles sont les prévisions justement? Qu'est-ce qu'on attend de ces vendanges? Comment ça va se passer?
Eh bien, en fait, on est content parce qu'on a vraiment bénéficié d'un climat propice à la vigne jusqu'à présent. Il est évident que la pluie des derniers jours peut nous porter des inquiétudes par rapport à la pourriture en particulier. Donc on a beaucoup de raisins, Donc on pourra trier, donc on va bien sûr garder le meilleur, comme à chaque fois. Et donc on trie et on laisse de côté les grappes qui ne sont pas saines pour faire de belles bouteilles de champagne. On attend surtout de voir ce qui va se passer, parce que forcément pour faire des grands vins, il faut des grands raisins. Et puis les grands vins, on les finira au mois de janvier, février, quand on dégustera les vins à ce moment-là. On saura la qualité de nos jus. Donc on est encore trop tôt pour qualifier la qualité de nos vins. En tout cas, aujourd'hui, on voit que les raisins sont beaux. Les raisins que nous trions sont sains et donc on fera sûrement des grands vins.
Parlons un petit peu de la foire de Chalon également, puisque vous êtes présent. Qu'attendez-vous de la foire de Chalon pour vous en tant que président du syndicat général des vignerons ?
Alors, la foire de Chalon, c'est un rendez-vous politique important. C'est la rentrée politique. On croise beaucoup de monde, il y a beaucoup d'élus qui viennent, que ce soit des élus départementaux, régionaux, mais aussi nationaux, européens. Et donc c'est l'occasion de rappeler, peut-être de rabâcher, ou de rappeler encore les questions, les interrogations, parfois les incompréhensions sur l'actualité. Donc on a beaucoup de sujets aujourd'hui, que ce soit des sujets commerciaux, fiscaux, environnementaux. Donc on met un peu en avant les sujets qu'on porte depuis de nombreuses années, pour certains, sur des problèmes qu'on peut rencontrer ici ou là. Donc la foire de Chalon, c'est une occasion pour croiser tous ces politiques et leur rappeler les spécificités aussi qu'on a en Champagne et puis l'ambition de pouvoir maintenir un système bien organisé comme on le fait.
Parlons un peu maintenant du syndicat général des vignerons, SGV, pour abréger tout ça. Les projets, les perspectives à l'avenir du SGV.
Alors vous savez, nous, le syndicat général des vignerons, c'est un syndicat qui a 120 ans, donc un vieux syndicat qui a la mission de défendre l'intérêt des vignerons au quotidien. Donc nos principales missions, c'est d'être un accompagnant, de porter et d'accompagner les vignerons. Les gros projets, c'est d'emmener et de porter le commerce au niveau des vignerons. C'est un sujet qui est important, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'amateurs de champagne de vignerons à travers le monde. Donc c'est de pouvoir répondre à ces questions, donc de former les vignerons, d'accompagner les vignerons dans leur démarche commerciale, dans leur démarche de administrative. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et puis c'est au quotidien aussi de faire prendre conscience à la fois aux vignerons du changement climatique qui impose des changements de pratiques, mais aussi de discuter avec les administrations pour qu'on co-construise des projets structurants. Ce que je veux dire, c'est que on a en Champagne toujours fait attention à accompagner, à faire de la pédagogie, à faire attention à ce que les projets soient portés ensemble et de ne pas imposer. Et donc notre ambition, elle est de discuter avec les pouvoirs publics et les porteurs de projets à la fois au vignoble ou ailleurs, pour pouvoir accompagner au mieux le vignoble de Champagne.
Alors en parlant justement du changement climatique, oui, c'est justement l'un des sujets très importants pour vous, comme pour les agriculteurs, puisqu'on est à la foire de Chalon, on pense forcément à tous ces secteurs-là. Et vous disiez, vous êtes en discussion, c'est quand même quelque chose de très très lourd à porter.
Vous savez, on est les premiers spectateurs de ce qui se passe, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on voit bien que le climat change. On est au quotidien dans nos parcelles de vignes, on est au quotidien en contact avec la nature, avec le climat, la météo, donc il n'y a pas de surprise. Ce qu'il faut, c'est traduire ces bouleversements par des actions et des pratiques qui arrêtent de nuire et surtout qui ont des vertus face à une demande de la société et puis une obligation que nous avons tous de protéger notre environnement, de protéger les populations, de vivre en bonne harmonie avec les gens qui nous entourent. Les paysages de la Champagne, c'est un vignoble dans les maisons et des maisons dans le vignoble. Donc il faut qu'on travaille à continuer à expliquer ce qu'on fait, à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par exemple. Donc ce travail-là, c'est un travail de très longue haleine et on le doit d'autant plus que la Champagne, c'est une terre aussi d'excellence. Et donc, on doit en permanence innover, chercher à trouver des solutions. Et c'est ce que l'on fait. On a par exemple le projet d'une construction d'une serre de pré-multiplication, donc pour protéger la qualité de nos plants de vigne et de nos bois, etc. Donc, on est dans la recherche permanente d'accompagnement, parce que c'est le devoir aussi d'une organisation comme la nôtre au syndicat.
Maxime Toubar, vous êtes optimiste ?
Oui, très optimiste. C'est-à-dire que la Champagne est belle, la Champagne est grande et on fait tout ce qu'il faut pour que ça dure.
Merci beaucoup, président du syndicat général des vignerons, Maxime Toubard, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. À très bientôt.
Merci beaucoup, à très vite.
Et merci à vous, Christopher. Toujours depuis la foire, cette fois, je vous laisse aller nous chercher les bières. Nous, on se retrouve dès demain, depuis la foire, avec tous nos auditeurs, Hall 2, allégé depuis le stand de l'église catholique en Champagne-Ardenne. Le rendez-vous, c'est à 18h10. Très bonne soirée, en compagnie de nos programmes. Tout de suite, l'information nationale sur RCF.